Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, ça va très très bien. Et toi?
Ça faisait longtemps. Exactement, ça faisait longtemps. J'espère qu'on vous a pas trop manqué.
Tu peux quand même.
Tu peux. On le fait rarement, mais on va commencer direct avec un petit point actu, mais non pas du jeu vidéo, mais de Sœur d'édition. On a exceptionnellement une campagne de précommande qui est actuellement en cours, hein, qui concerne un livre tant attendu, le livre tant attendu sur Elden Ring, le monument Elden Ring par Sylvain Romieux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, bah écoute, on nous l'a demandé, redemandé et redemandé, donc on avait carrément expliqué qu'on était sur le projet, mais que voilà, il fallait du temps. On a rameuté Sylvain, qui est le co-auteur des deux bouquins sur Dark Souls, donc qui de mieux placé pour écrire un livre sur Elden Ring. Le truc, pourquoi une préco? Ben parce que voilà, on attend le DLC évidemment pour l'inclure. Donc il va falloir attendre la sortie fin juin, le temps d'écrire, de corriger, maqueter, etc. Donc on prévoit une sortie pour début 2025.
Oui.
Mais vous pouvez d'ores et déjà le commander parce qu'on a vraiment prévu cette fois un coffret prestige qui vraiment qui tabasse la gueule.
C'est ça.
Et on veut éviter de frustrer les gens en sortant que trop peu et qu'au final il y ait la moitié des gens qui nous disent j'ai pas eu le temps de le choper. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle une campagne de préco là qui se termine jusqu'au 5 mai.
C'est ça.
Donc vous avez le temps, il n'y a pas de quantité limitée pour l'instant, donc voilà, vous allez sur le site, le paiement immédiat, bon ça on peut pas faire autrement, hein, mais voilà, quoi qu'il arrive, vous aurez comme ça au moins réservé votre exemplaire, et ça sera une dinguerie.
Ça sera une dinguerie, hein, comme on dit, livre et projet exceptionnel, il y a une mise en place qui est exceptionnelle, comme tu l'as dit, avec un niveau de bouquin qu'on fera rarement, hein, cette édition Prestige, qui est vraiment avec un fourreau en plus,
ouais.
C'est assez rare,
si
et
vous
c'est
êtes pour ça pas, qu'on fait. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir sur nos réseaux sociaux, vous verrez les petites vidéos faites par Ken, qui met en scène le tout, c'est magnifique.
Ouais. Et si vous nous regardez en vidéo sur YouTube et Spotify, peut-être que vous verrez, là, Ken, il va nous mettre un super montage stylé de son cru en plus, hein, qu'on remercie et qu'on félicite au passage. Au programme de cette émission, on va tout d'abord parler de Stellar Blade, l'exclusivité PlayStation 5 qui sort demain. Vous retrouvez un interview de Top 3, mais il y a d'abord ta chronique à toi. En seconde partie de l'émission. Allez, salut. Allez, et en seconde partie de l'émission, tu vas nous parler. Serait-ce un marronnier?
Mon violon, hein. Le point sur, le marché next-gen.
Le point next-gen.
Si next-gen, du coup, hein, qui est un peu current-gen et, est-ce que finalement il a pas un petit peu calé au démarrage? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir se profiler une génération perdue? Là, là, titre mystérieux et provocateur.
C'est beau ça.
C'est ça qu'on veut. Restez jusqu'au bout.
Vous retrouverez donc l'interlude de Top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur, non pas retour sur l'émission de la semaine dernière, mais retour sur les 15 jours, hein, qui nous ont séparés entre les deux raids d'alerte. On vous a pas laissé sans rien. Il y a eu des émissions. On revient rapidement dessus. Il y a eu un Sand Teams sur John Williams, notamment à l'occasion de la sortie de notre bouquin sur John Williams. Il y a eu aussi un sort d'émission sur FF12.
Avec Rémi, ouais, qui vient accompagner la nouvelle édition de FF12, hein, comme vous l'a dit, qui est un petit peu modifiée, avec tout le contenu de Vagrant Story qui a été extirpé, enrichi,
multiplié par 10
selon les statistiques de l'INSEE. Et donc ça nous donne deux bouquins super. Et donc le John Williams aussi, comme tu l'as dit,
donc voilà,
son équipe qui vient avec l'auteur du livre John Williams qui vient nous parler un peu,
ouais,
des tendances dans la musique orchestrale au cinéma aussi, faire un petit point là-dessus, quoi.
Et vous avez pu retrouver Rémi donc dans le sort d'émission sur FF12, et vous le retrouverez normalement, et si tout va bien, dans 3 semaines sur un third émission sur Vagrant Story, toujours aussi pour accompagner la sortie de son bouquin.
Voilà, parce que on n'aura pas des raids d'alerte tout le temps avec tous les ponts et le mois de mai, donc on comble les trous.
On vous laisse jamais sans rien, il y a toujours quelque chose à écouter. Normalement, si tout se passe bien, et ça se passera bien, on en a pas.
Il y a pas de raison.
Il y a pas de raison. Est-ce que t'es chaud pour parler de Stellar Blade?
Je suis chaud.
C'est vrai. T'es chaud, allez, on y va, on va parler de Stellar Blade et de l'attente ou l'impatience, hein, qu'on peut avoir pour un titre. Et donc, la question que je te pose, c'est est-ce que l'attente qu'on nourrit pour un jeu peut conditionner notre appréciation? Voilà, je te laisse répondre.
Oui. Oui, non, carrément. Bah, l'attente, ça fait partie.
C'est une blague,
ferme ma gueule, du coup.
Non, mais oui, c'est forcément, des fois, on est un peu excité là, on sait pas trop, l'arrêt d'alerte reprend.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée, on fait n'importe quoi.
J'ai mon nouveau cartable.
Donc l'attente, c'est pas trop la hype, hein, ça c'est un autre sujet, mais la com en règle générale va stimuler notre attente, hein. Donc il y a l'annonce du jeu, les teasers, les trailers, parfois la démo, hein, ça a été le cas pour Stellar Blade. En fait, c'est un petit peu tout le travail de l'éditeur, hein, qui va servir à alimenter notre attente. Mais bon, il y a aussi notre attente perso, hein, celle qu'on développe tout seul, hein, comme un grand, et qui est le plus souvent liée, à notre passé avec la série, notre passé sur si on aime bien la saga, si on veut un nouvel épisode, si on l'aime ou on l'aime pas. Un petit peu notre affect perso va beaucoup jouer là-dessus. Mais du coup, Quelles étaient nos attentes concernant Stellar Blade et son studio Shift Up? Déjà, est-ce que vous savez ce que Shift Up? Nico, je te fais un petit topo. Mais je sais que tu sais, mais bon.
Ça m'intéresse. Non, pour le coup, je suis pas trop renseigné sur le sujet.
Alors, Shift Up, c'est un studio qui a été fondé en 2013, par Kim Young-tae. C'est un studio qui est coréen. Et, il a commencé, ce studio, donc, en 2016, 3 ans après, avec un jeu qui s'appelle Destiny Child. Non, ce n'est pas une simulation de Beyoncé.
Pas dommage.
C'est un jeu mobile avec des cartes, et des nanas. Il y a eu en 2022, donc là le jeu il a connu un très très beau succès, en 2002 il y a eu Goddess of Victory Nikkei, un jeu très très connu en France, et rappelez-vous Japan Expo l'année dernière où il y avait un stand qui était énorme autour de ce titre-là. Alors c'est un cover shooter militaire avec des nanas, donc vous allez
je
voir.
Je pense avoir un pattern.
C'est d'ailleurs un jeu qui est édité par Tencent, donc c'est okay. il y a une grosse masse derrière qui s'occupe de tout ça. C'est un jeu qui est connu en France, aussi très très connu au Japon, et là je peux flex un peu, j'étais au Japon et je peux vous dire que on le voit absolument partout, les grands spots en 3D que vous voyez comme au Times Square, il y en a quelques-uns au Japon aussi, c'est souvent le jeu Nikkei qui est. J'étais au Japon pour la sortie de Rebirth, j'ai cherché partout des éléments visuels de la com et tout de Rebirth et autour des jeux consoles en règle générale. Que dalle ou quasiment rien.
C'est le grand remplacement, quoi.
Alors, c'est un peu le grand remplacement, mais tu vois, le jeu mobile en règle générale, et en l'occurrence ce jeu, il est vraiment très très présent, alors que moi je cherchais des clouds partout, je les trouvais pas.
Oui, bon, c'est que ça fait des années que le marché japonais a vraiment basculé, alors sans dire que le marché console est réduit à peau de chagrin, mais c'est le mobile et le free-to-play qui mènent la danse, quoi. Et c'est vrai qu'on voit ces gros développeurs qui ont eu du succès sur mobile, ben, qui malgré tout cherchent à s'acheter une espèce de crédibilité sur console de salon. T'en parlais avec Granblue, tout ça.
C'est ça. Et c'est en 2019, qui est dévoilé au public Project Eve, c'est le nouveau jeu
2019.
Du studio. 2019, ça date. Et c'est Yoshida, chouchou, un chouchou aussi qu'on adore, ben, qui a approché Shift Up. Donc c'est Yoshida, l'ancien boss des studios Sony, qui est maintenant chez les indés, qui va aller chercher les pépites indés.
Qui a du pif.
Alors, est-ce qu'il les a approchés en pensant que c'était des indés? Je pense pas, parce qu'en 2019, ben, il était encore responsable des studios Sony, et c'est peut-être, je crois, son dernier fait d'armes à ce poste-là.
Bon, on voit qu'il en est fier, il en parle beaucoup sur les réseaux.
Carrément. Et Shift Up, c'est pas trop un studio indé, c'est pas des petits, ils génèrent beaucoup, beaucoup d'argent, notamment avec leurs jeux mobiles. D'ailleurs, Tencent est entré dans le capital du studio à hauteur de 20% il y a 4 mois, donc c'est très récent.
Comme tout le monde, voilà, ils ont aussi 20% de Sword Edition.
C'est vrai, et comme Sword Edition, le studio Shift Up va rentrer en bourse en Corée du Sud, avec une valorisation de 2,3 milliards.
Ouais, pas loin.
Pas loin, je crois qu'on est à 2,2 nous.
Ouais. Zoro.
Bon, c'est donc Sony, du coup, qui a édité Stellar Blade. Ils ont géré tout ce qui est QA, donc Quality Assurance, la localisation, la com, le service presse, le marketing. Et ça se sent, tu m'en parlais, on sent qu'il y a Sony derrière avec la loc, il y a toutes les langues, il y a derrière la masse marketing de Sony, la puissance marketing qui est derrière.
Ouais, bon, on en parlera tout à l'heure quand on parlera d'exclus, mais Sony a l'intelligence pour combler justement ses lacunes en termes d'exclus first party, d'avoir misé beaucoup sur du second party. Et voilà, notamment d'avoir mis en valeur ce genre de projet. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, si on compare sur Hellblade 2, qui sort dans juste un mois, où la com est inexistante et où les trailers qu'on a vus pour l'instant, alors peut-être que ça va se mettre en marche, il serait temps, mais on voit vraiment la diff, quoi, en termes de Sony qui sait vendre un jeu, partir de pas grand-chose. C'est une licence qu'on connaît pas, un studio qu'on connaît pas, ils arrivent à créer une hype autour.
Ils ont la capacité de transformer Rise of the Ronin dans une autre mesure, moindre mesure.
Ils ont fait de Rise of the Ronin un événement, alors que des jeux B comme ça de la Team Ninja, on en a bouffé tous les 3 mois, quoi.
Ils en ont fait un sandwich, ils en ont fait, enfin, il y a quand même des trucs. Ils ont une capacité forte à mettre les projecteurs sur des jeux, et c'est quelque chose à mettre en valeur aussi. Ouais. Le game director de Stellar Blade, c'est Kim Young-tae. Oui, c'est aussi le fondateur du studio, et c'est pas un inconnu. Il était, et ça je parle pour les anciens, le directeur artistique et character designer des jeux Magna Carta.
Souviens-toi
de ces jeux qui étaient des petits jeux, des petits JRPG, mais qui se sont fait connaître.
Ouais, qui avaient par leur design, leur buzz à l'époque. Alors ça date c'était de quoi, éclaté. Il y a 15 ans, 15-20 ans,
je pense plus.
Mais c'était éclaté. Il y avait ce chara-design un petit peu élégant, machin, qui avait su attirer l'attention. Éclaté, carrément. C'était carrément éclaté.
Bah moi j'en ai fait qu'un et c'était vraiment pas bon.
Bon, après jamais joué moi, mais c'est vrai qu'ils avaient su un petit peu attirer l'attention, quoi.
Après il a travaillé sur d'autres titres, notamment Blade and Soul, mais bon c'est un MMORPG coréen, on connaît pas. Mais pareil, il y a cette petite touche de Kim Young-tae, il sait faire notamment sur les personnages féminins. Et donc à ce jour, on va dire plus globalement, les studios coréens et sud-coréens, ils sont très très solides sur le marché mobile, mais doucement ils commencent à pivoter vers des jeux consoles. Et cette nouvelle orientation, ben, il l'amène avec des jeux qui sont dans le style des Souls-like. Alors notamment, et je parle des grosses prods, hein, on parle de Lies of P, de Black Myth Wukong, qui va sortir prochainement. Mais il n'y a pas que, il y a The Fur Descendant qui fait beaucoup parler de lui et qui est un shooter coop qui va sortir en 2024. Donc voilà, il commence... Et t'as commencé à le dire, un petit peu à pivoter sur le marché console.
Ouais, c'est vrai qu'on voit là les studios coréens et chinois qui arrivent avec des projets comme ça qui ont l'air très ambitieux et tout, qui ça, enfin sans dire ça, c'est un petit peu le futur, mais oui, ils vont avoir de plus en plus de place et de plus en plus de choses à montrer et à dire quoi, bah, par rapport aux développeurs occidentaux et japonais tels qu'on les connaît aujourd'hui quoi.
Stellar Blade, c'est donc le premier jeu console du studio Shift Up, et en termes d'attente, rappelez-vous, c'est mon fil rouge, on attendait pas grand chose finalement de ce studio qui avait un petit peu tout approuvé. Il fallait qu'il soit, bah, qu'ils nous montrent un petit peu la valeur de, bah, de leur jeu, surtout sur un nouveau marché et sur un nouveau type de jeu. Et au vu des premiers trailers, bah, notre attente, pour le coup, elle a pu être un peu titillée, parce qu'on a pu y discerner bah, du Bayonetta avec une héroïne sexy et une sorte de beat'em up 3D, on savait pas trop. On a pu y discerner aussi du Nier Automata avec une héroïne sexy et du post-apo et de l'action RPG cette fois. Et on a pu y discerner aussi du Sekiro avec un système de combat qui était basé sur les contres. Et tout ça, ben, on a vu juste parce que ce sont des influences qui sont avouées par les créateurs, hein, Sekiro, Nier Automata et même Star Wars Jedi Fallen Order, parce que ça c'est plus au niveau de la construction du jeu. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Et au final, on peut se demander, avec tous ces emprunts, quel est le style du jeu? Alors c'est un petit peu tout à la fois, hein. C'est un beat'em up 3D RPG Souls-like, mais bon, est-ce que c'est finalement important? Mais le plus surprenant, c'est que c'est un jeu qui est au genre, je trouve, évolutif. Et ça, c'est intéressant parce que ça va justement déjouer nos attentes.
Évolutif au sein même de la partie, tu veux dire.
Au sein même du jeu, il est évolutif. Il semble être le titre d'abord un beat'em up à la Bayo, puis il ressemble à un Sekiro, mais finalement on se rend compte que c'est une sorte de Nier Automata avec un système qui se rapproche plus ou moins des Souls. Et Nier Automata, on en parle et on va en parler un moment parce que c'est une référence pour tout, pour les thématiques, hein. Stellar Blade, c'est un jeu qui parle de l'humain, de ce qui nous rend humain, et ça, il nous le montre en mettant en scène des non-humains ou des androïdes augmentés, on va dire. Et le jeu, il se questionne sur nos actes, leurs conséquences, le futur, en essayant de jouer un petit peu sur les points de vue. C'est du Nier Automata, mais copié, hélas, un petit peu bêtement et sans fond.
Ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'on est sur la référence ou est-ce qu'on est sur le plagiat? Enfin, bon, il s'en cache pas, déjà, ça, c'est clair et net.
Il s'en cache pas du tout.
Moi qui ai joué 2 heures au jeu à peine, hein, c'est même plus, c'est pas une référence, c'est un décalque, quoi.
On est sur du Scorn.
J'ai même pas touché la manette que j'entendais déjà des cœurs et tout. Oh, ouais. Machin. Ça, voilà, l'héroïne d'android sexy dans un mode post-apo avec le petit robot qui t'accompagne. Enfin, on est vraiment dans l'hommage très très appuyé, on va dire.
On n'est pas dans la subtilité, d'ailleurs, le game director de Stellar Blade ne s'en cache pas, et je vous conseille un article de IGN qui ont fait rencontrer Taro Yoko et Kim Yung-tae, et les deux, alors c'est très... voilà, à l'asiatique, à la japonaise, ils sont très complaisants en disant c'est ton jeu le meilleur,
c'est toi le meilleur. Tu raccroches à trois, non,
c'est un petit peu ça, mais l'interview est assez intéressante parce qu'il y a des questions aussi sur les jeux, sur le comparatif, évidemment sur l'inspiration.
Oui, déjà ils s'en cachent pas, voilà, c'est déjà une chose.
Difficile de s'en cacher quand même. Bon, Stellar Blade cite aussi des beautés Blade Runner, Gun pour sa dimension cyberpunk, mais soyons honnêtes, hein, ce qui a cristallisé l'attention et une partie des attentes, hein, c'est le traitement cyberpunk, mais pas de l'univers, mais de son héroïne principale, Eve. Et donc, voilà, l'héroïne, elle s'appelle Eve, hein, et son comparse s'appelle Adam, hein, le hub du jeu s'appelle Xion. Si vous avez pas vu, c'est plutôt Xion, hein, mais voilà. Tout ça n'est pas très fin, faut pas donc s'attendre à une écriture très très subtile. Et donc, on va parler du cas du design de l'héroïne, hein, qui est à ce titre pas très subtil non plus. On a parlé tout à l'heure de la direction artistique et du chara-design de Magna Carta. On est sur une évolution logique par rapport à ce que le créateur faisait. Et donc, le game director est fondateur du studio, hein. Il est pas dans la finesse, hein. On le voit. Et il dit, ça c'est sa déclaration... Il dit que dans les jeux, ce qu'on voit le plus, c'est le dos du personnage. Et donc, il faut que le dos soit joli. Alors, ce qu'il dit, je trouve que c'est pas faux, hein. Miyamoto avait une réflexion similaire à l'époque sur Twilight Princess, où il trouvait que le Link loup était trop peu attrayant, difficile à percevoir. Et donc, il a dit, on va mettre un petit personnage dessus. La création même de Midona est née de cette réflexion, de dire, ce personnage de dos, il est pas très attrayant. Après, on va dire qu'on n'est pas sur le même ratio d'attrayance, hein, je sais pas. Il dit aussi que les héros des jeux doivent être des persos qui s'approchent d'un certain idéal. Alors, le sien, d'idéal, et que ça l'intéresse pas d'incarner des personnages qui lui ressemblent à lui. Bon, ça, c'est son avis, hein, et il est libre de le penser, et en plus de le développer, comme il crée le jeu. Et enfin, il dit qu'il y aura aucun souci pour imaginer un croisement entre Stellar Blade et Goddess of Victory Nikkei, le jeu que je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Si le jeu, les joueurs le souhaitent, donc si vous avez envie d'un crossover, dites-le, ce qui veut dire, et c'est le plus important, que la mise en avant des nanas est plus commerciale qu'artistique, mais ça, qui en doutait encore, je sais pas, mais je trouve que la petite déclaration, celle-là, elle est pas mal quand même.
Ouais, ouais, mais après, bon, enfin, tu vas développer, j'imagine, mais c'est vrai que... Enfin, il y a aussi un côté culturel qu'il faut aborder, là-dessus, je suis pas spécialiste, mais en Corée, enfin, de ce que je crois comprendre, t'as aussi tout un culte de l'apparence aussi, un culte du, bah, des belles personnes et tout, donc, faut aussi prendre le jeu par rapport à ce prisme-là.
Ça, le créateur, il est intervenu, il a dû, entre guillemets, s'en défendre, parce qu'il y a eu un bad buzz, il y a eu une polémique autour de la sexualisation de son personnage, et il a déclaré que, voilà, en Corée du Sud, c'était un traitement qui était différent. C'est ça, en interprétation, c'est sa défense. Lui, c'est ce qu'il déclare, qu'il y a vraiment un traitement qui est pas pareil et que quelque part où il faut l'accepter ou en tout cas qui est réel.
C'est vrai qu'on a fait des progrès ces dernières années dans la représentation des personnages féminins qui sortaient justement de ces stéréotypes pour avoir des persos qui étaient plus réalistes, on va dire, et qui ça allait dans le bon sens, comme Aloy par exemple, ou ce genre de choses. Là, on voit qu'on est sur un recul parce qu'on revient sur des valeurs un peu éculées où tous les persos ressemblent à des mannequins sortis de Top Model agence. Mais voilà, est-ce que ça justifie de jeter le jeu et machin? Non, je pense pas non plus, quoi. Faut savoir relativiser derrière, quoi.
Dans tous les cas, en termes de marketing, le design de Eve, il a, je pense, plutôt bien fonctionné. Hein. On a parlé que de ça bien avant la sortie du jeu, et on en a parlé même plus que le jeu en lui-même. Ça, c'est, je trouve, un petit peu dommage. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de replacer ce personnage au milieu des héroïnes de Sony, parce qu'on est sur un jeu qui est devenu quand même une exclusivité. Et on le rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Yoshida qui est allé chercher, qui a démarché le studio Shift Up. Et l'image de Eve, elle est radicalement différente de l'image des héroïnes Sony. On peut donc se demander si, pour Sony, le besoin de remplir son catalogue et son portfolio a été plus important que l'image que allait renvoyer le jeu après sa sortie. Est-ce que tous les moyens sont bons pour camoufler ce déficit de production interne, ça pour Sony? Alors évidemment, vous allez me dire, hein, que ce manque, il est assez récent. On va dire que ça fait un an et demi, avec l'année dernière, un Spider-Man 2 esselé. Mais c'est des choses qui peuvent s'anticiper quand t'es une société comme Sony, où tu sais que ta fin de tes prods va se terminer là, que t'as tant de jeux au portfolio. Donc c'est un peu ce questionnement, Nico, de est-ce que tous les moyens sont bons pour faire qu'il faut des triple A first party, quoi.
Tu pèses les bénéfices et les soucis de PR que tu peux récolter, tu fais la balance. Après, enfin, il y a peut-être aussi une question que Sony n'a pas cherché à avoir d'ingérence dans le studio, tu vois, ils ont peut-être pas cherché à imposer une quelconque vision aussi, donc. Ça peut être aussi vu de ce point de vue-là, quoi.
Exactement. On peut se poser la question, mais si on revient un petit peu sur les héroïnes de Sony, elles sont jamais caractérisées pour leur hyper-sexualisation. Ellie de Last of Us, Aloy de Horizon, Mary Jane de Spider-Man, on peut penser à Freya de God of War, Selene de Returnal, ma chouchoute, hein, qui est une daronne, hein, qui est pas du tout sexualisée, elle est dans une chute de l'espace. Si on part côté Japon, parce que là vous allez me dire, ouais, mais on est quand même un petit peu sur l'Occident, Gravity Rush, il y a Kat, qui était pas du tout hyper sexualisée, et si on parle d'android féminin, la dernière en date, c'est Detroit et Chloé. Je pense qu'il y a quand même un certain delta. Là, pour le coup, Eve, elle détonne un petit peu dans tout ce panel Sony.
Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est que t'as des prises de conscience et des choses qui vont dans un sens qui est plutôt bénéfique, mais c'est pas parce qu'il y a une prise de conscience quelque part que tout le monde doit forcément être au même niveau. Chacun y va à son rythme aussi, donc faut pas juger trop durement non plus, peut-être, ceux qui ont pas forcément ce même niveau de conscience du truc, quoi, du problème.
Néanmoins, Eve, elle est très sexy, peu vêtue, et ça, c'est un fait. Mais perso, ce qui me dérange le plus, c'est que ça colle pas vraiment à l'univers du jeu, et qu'on me sorte pas l'excuse du scénario, tout a été expliqué façon certaines sentinelles, hein, t'as compris, si les persos, ils sont tout nus, c'est parce qu'ils sont connectés, hein, t'as compris. Si les persos sont à moitié à poil, c'est pour aguicher, c'est pour du fanservice, dans le premier sens du terme. C'est vrai que fanservice, on l'utilise, nous, plus en mode, c'est des coups de coude, c'est des clins d'œil, mais non, le mot fanservice, à l'origine, c'est justement pour ça.
Pour plaire aux otaku.
C'est ça. Tout ce qui est dans Stellar Blade, c'est du niveau, je trouve, de Nier Automata, Bayonetta, Xenoblade 2, MGS5, même si c'est des jeux qu'on apprécie, c'est la même chose.
Ouais, faut pas oublier Nier Automata, quand même, l'héroïne, c'est une soubrette, elle est habillée en soubrette, alors que c'est un robot, un androïde du futur, quand même.
C'est ça. Et dans Stellar Blade, comme dans ces jeux, comme d'hab, les persos masculins sont, à l'inverse, très habillés, donc je trouve qu'il faudrait pas trop parler de crédibilité ou de logique scénaristique pour le justifier. Non, c'est tout simplement des nanas dénudées. Et dans Stellar Blade, bah, des meufs à moitié nues, bah, y en a beaucoup. Ce qui est dommage, parce que je trouve que le chara-design en lui-même, global sur les personnages, hormis cette hypersexualisation, bah, je le trouve plutôt très bon. Il y a des persos avec des designs vraiment très classe, et il aurait pu avoir tout à fait de façon possible, un personnage principal féminin avec un design qui est décent. Et ça, donc le titre sort demain, donc je vous spoil pas, mais il y a des grands boss qu'on appelle les alphas. Vous verrez, le alpha 2, c'est une nana hyper sexualisée, mais il y a un twist et elle a un look vraiment de ouf. Donc il y avait peut-être moyen d'avoir une logique, ce qui n'est absolument pas le cas là. Et ça, moi, je trouve que c'est un petit peu ce qui me dérange. Et de la même manière, dans les titres que j'ai pu citer, même si on les apprécie fortement.
Ouais, je te suis là-dessus.
Okay. Après, si le studio crée des personnages comme Eve, c'est à dessein. C'est au goût de son director, et c'est pour faire parler, et on a tristement vu que ça marchait beaucoup. Mais le truc qu'on peut aussi souligner, c'est que l'importance de l'apparence de Eve, dans le jeu Stellar Blade, elle est accessoire, dans le premier sens du terme. Elle est complètement accessoire. Et ça, en fait, c'est sous-entendu dans le game design du jeu. Il y a 30 costumes à aller chercher. Et ces 30 costumes, ils sont pas forcément évidents à trouver. Alors, on pourrait se dire que ces costumes sont une récompense. Et ça pourrait être très déceptif. Et c'est vrai, tu tapes une quête annexe de ouf, ou tu vas chercher au fin fond d'une colline et tout, et à la fin, tu te tapes un costume. C'est vrai, tu pourrais dire c'est un objectif. Et donc, tu peux être déçu, mais... Au final, ces costumes, il faut savoir qu'ils ne servent absolument à rien. Ils ne serviront à rien dans vos stats, ce n'est uniquement que esthétique. Aussi, il y a des costumes qu'on peut fabriquer. Tu as trouvé des sortes de patrons, il va falloir que tu les fabriques toi-même. Et en fait, ces costumes, ils demandent des ressources. Donc, c'est à toi de choisir d'engager tes recherches et de dépenser tes ressources pour les faire. Ce que je veux dire, c'est que il est vrai que les costumes sont indécents. Mais ces costumes auront l'importance que si vous leur en donnez. Car concrètement, dans le jeu, ils ne servent à rien du tout. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y a un personnage qui s'appelle Lily, personnage féminin, qui dit à un moment, c'est Adam, c'est le personnage de Adam qui t'accompagne avec sa voix du petit androïde robot qui vole, mais à un moment du jeu, c'est Lily, il switch. Et donc, quand c'est Lily qui t'accompagne, à un moment, tu fais, moi, il m'est arrivé une quête annexe où je devais aller au bout d'un ravin escarpé, très compliqué, avec des monstres assez complexes, et je chope un costume. Et à ce moment très précis, ce personnage de Lily dit, j'ai l'impression qu'on prend trop de risques pour pas grand chose. C'est intéressant, je trouve aussi, de souligner que il y a quand même un petit truc là-dessus. En fait, les costumes peuvent être un enjeu pour les joueurs, mais ils ne sont pas un enjeu pour le jeu, ils ne sont pas un enjeu pour le gameplay. Donc après, chacun à voir si vous vous en foutez complet. Moi perso, j'ai tout le jeu, j'ai fait avec un seul costume qui était le plus logique, je trouve, avec la diégèse, avec l'univers, tout ça. Parce que tu peux avoir des costumes où t'es en sorte de soubrette, t'es en pyjama, en nuisette, en bunny, t'as absolument de tout. C'est assez particulier. Le développeur, enfin le game director, s'expliquait aussi à ce sujet où à la base il voulait expliquer tout ça dans un diégèse en disant que le personnage de Eve qui en fait est envoyée depuis l'espace, tout ça, elle avait une fascination pour le monde terrestre et donc elle avait un petit peu un kink sur les costumes. Et à la fin il a dit lui-même, il fait vas-y non, on oublie ça, c'est des costumes, c'est comme ça. Et il voulait pas aussi non plus que les costumes aient un avantage sur les stats. Parce que faut que tu choisisses ton costume par rapport à tes goûts et que sinon tout le monde aurait utilisé le costume qui était le plus efficace. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de rapport statistique à ces costumes. Ce qui peut poser question en revanche sur cette sexualisation, c'est l'appropriation du personnage de Eve. Et ça, il y a de nombreux joueurs et des mouvements anti-woke qui l'ont pris comme porte-étendard. Et ça a été exactement la même chose avec ça très récemment avec l'actrice Sydney Sweeney. Et ça a été le cas pour exactement les mêmes raisons. Ils ont fait porter à l'actrice des propos qu'elle ne tenait pas. Mais ici, on parle d'un jeu, on parle pas d'une actrice. Et une fois le jeu sorti, l'œuvre, elle est dans la nature. Elle est libre d'interprétation. Et parfois, pour le mieux, par exemple, il y a des mouvements féministes qui ont adopté Bayonetta, alors que son créateur, Camilla, n'avait pas du tout prévu d'en faire une icône progressiste. Et parfois, pour le pire, et ça, c'est plus triste, il y a l'appropriation du personnage de Eve par des mouvements qui sont anti-woke. Après, l'appropriation des œuvres d'art qui ne sont publiées, ça arrive. Il y a des mouvements racistes qui ont pris la marche impériale ou des trucs de Star Wars. C'est comme ça, c'est triste. Mais bon, une fois que l'œuvre est dans la nature, t'as une appropriation qui est, mais c'est jamais une question de... Faut pas faire porter des propos à leur créateur, par exemple. On est sur autre chose. On reparle sur les attentes, on pouvait donc s'attendre à un jeu avec une héroïne très sexualisée, mais c'est ce qu'il est, en fait, tout simplement. Après, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose pour du gameplay? Est-ce qu'il était étonnant? Et ça, clairement, en fait, le gameplay, il est très étonnant, car il va pas trahir nos attentes. Pour ma part, en tout cas, il va les combler. Alors, le jeu, je vous l'ai dit, il est un système de jeu assez évolutif, il commence de façon linéaire. On peut donc penser à une sorte de beat'em up, mais le personnage, il est lourd. T'as pu faire les premières heures, Le personnage, il est lourd, surtout quand t'es en mode lock.
Oui.
Donc, du coup, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans du Bayonetta. Puis on nous présente un système de parade parfaite façon Sekiro, Mais même si le personnage de Eve, hein, notre perso, il est moins mobile que dans Sekiro, on se rend compte que les deux jeux présentent un système qui est porté sur la défense, et ça c'est assez intéressant. Mais le truc cool, c'est que le jeu il possède un système de combat qui est vraiment très riche, ultra riche, et dans lequel on a en fait plein de possibilités de contre et d'esquive, avec des manipulations très précises à faire pour chacun d'entre eux, et avec un système de couleurs qu'il faut bien assimiler, et ça j'ai trouvé ça mortel, où t'as par exemple un violet si tu veux faire l'esquive répulsive, où tu vas en fait t'appuyer sur l'ennemi, une esquive vers l'avant, où en fait tu vas aller derrière, le jaune c'est pour les attaques qui sont imparables, et en fait l'ennemi va te renvoyer un signal de couleur, et en peut-être petit à petit, hein, pas comme un jeu de rythme, mais presque quelque part, tu vas devoir être hyper réactif. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. T'as pu, toi, suffisamment
tester? J'ai pas eu les trois niveaux d'esquive, j'en ai eu que deux, mais c'est vrai que après, t'as ce côté un peu pavlovien, quoi, où telle couleur, bam, c'est tel truc et tout, tu réagis à la frame.
Et on se rend compte, comme dans Sekiro, que finalement, on a le temps et qu'il faut pas spécialement paniquer, que tout se passe bien.
Oui. Okay,
ça, c'est plus compliqué, mais.
Après, c'est vrai, je pense que tu vas peut-être développer, c'est vrai que entre le beat'em up et le Souls-like, je trouve qu'on tend un poil plus vers le beat'em up, quand même. On n'est pas dans l'exigence non plus, 100% de Souls-like, en termes de dégâts d'ennemis, en termes de parade, de fenêtres de parade et tout.
C'est vrai. Parce que le système de combat, moi, je le trouve très impressionnant et le feeling, je le trouve très bon. Les coups, ils portent beaucoup, ils ont beaucoup de force. Mais comme tu dis, les persos, ils tapent fort. Mais petit à petit, en fait, on va plus se rapprocher du beat'em up. On parlait justement des Souls-like. Le jeu, il paraît dur au début, mais en fait, t'as beaucoup d'outils pour t'en sortir. T'as même une sorte de scan, je sais pas si tu l'as eu, qui va en fait te scanner façon Horizon et qui va te dire les objets que tu peux avoir, les interactions que tu peux avoir avec le décor. Si par exemple, t'es paumé et qu'il n'y a pas assez de traces jaunes que tu n'as pas vu, il va pouvoir te guider. T'as les objets aussi. Ça fait un peu le Souls dans le déclic. C'est-à-dire que les objets, il faut vraiment comprendre qu'il faut les utiliser. Et quand t'as compris que tu peux les utiliser et que c'était vraiment des bienfaits qui sont vraiment salvateurs, tout va bien se passer. Et tu vas avoir un sentiment de puissance de ouf. C'est vraiment très, très évolutif et tu vas te rendre compte que finalement tu t'en sors bien et que ça va pas être si dur, même si t'as des pics de difficultés qui sont assez élevés sur des boss, notamment le final, hein, qui m'a vraiment vraiment posé problème, moi, le boss final. Après, dans sa construction, le jeu, il va aussi déjouer nos attentes parce qu'il va s'ouvrir. On passe du linéaire à quelque chose qui est plus semi-ouvert, avec une grande zone dans laquelle tu vas avoir des quêtes annexes, des PNJ, une grande ville, entre guillemets grande ville, qui est une sorte de hub. Et en fait, le monde, il va s'ouvrir, se transformer, mais ça va être aussi le cas de notre perso. On va, nous, petit à petit, gagner différents moyens d'exploration. T'as un wall run qui arrive à un moment. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le jeu, en fait, il va distiller au fil de l'aventure les nouvelles capacités. Alors, t'as bien sûr des arbres de compétences, mais tu t'en fiches parce que chaque arbre de compétences va, en fait, être lié à une propriété en particulier. Et en fait, t'as des arbres de compétences qui vont arriver par la suite, qui vont te donner de nouvelles propriétés. Et ça arrive petit à petit au fil du scénario. Et donc, t'as un vrai sentiment de renouvellement, de diversité. T'as pas tout direct. Tu vas voir ton arbre de compétences à la fin. Tu fais, ah, ok, je vais débloquer ça dans cinq heures.
Ça, c'est cool. Ça, moi, c'est vraiment le truc qui me gêne souvent dans les jeux qui s'étirent où, en fait, tu reviens à faire toujours la même chose. Un jeu qui va se dévoiler petit à petit et qui même change de structure linéaire, puis monde ouvert, machin, et qui t'offre des mouvements adaptés derrière. Ça, je trouve ça vraiment cool, quoi.
Ouais. Mais ce qui est vraiment super sympa, c'est, et ça, je m'y attendais pas, c'est que le jeu, il a un rythme, un pacing qui est vraiment très bon. Et je l'ai dit, il commence comme avec un segment linéaire, après il s'ouvre, après il repasse en mode linéaire, mais cette fois avec un niveau sans armes, où tu vas être obligé d'utiliser le shoot. Et c'est une séquence qui est d'ailleurs plus versée dans l'horreur, ce qui est, je trouve, très intéressant pour la variation de ton, et donc dans le sentiment de changement de rythme. Il y a aussi des séquences qui sont plus calmes, d'exploration. Alors, juste un petit mot sur la technique, les animations de Eve, elles sont ouf, il y en a de partout, quand elle passe derrière une échelle, quand elle saute et tout, franchement, ça c'est super classe. Donc dans l'exploration, c'est très agréable. Et en fait, tu vas croiser, en plus de tout ça, tu vas croiser des petites énigmes dans la quête principale, dans la quête annexe. Nico m'a sauvé pour une quête annexe d'ailleurs, en vrai enquêteur que tu es. Et ça, en fait, tu l'enchaînes avec des séquences de plateforme, des cinématiques, des QTE, des poursuites, de l'infiltration, de la glisse. Alors tout ça, c'est rien de fou, rien de révolutionnaire, rien de déjà vu, en fait. Que tu n'as vu ailleurs, je veux dire. Mais tout est assez bien réalisé, même si la séquence de plateforme, je pense, on pourra en faire tiquer quelques-uns. Mais au global, moi, je trouve que tout est assez carré. Et surtout, c'est que l'amalgame, il fonctionne. Mmh. Et ça marche sur 25 heures. Et bon, à la fin, au passage, vous avez plusieurs fins. Hein, t'as un choix qui t'est posé. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu, il est assez long. Et en fait, t'as vraiment ce sentiment de variété. De générosité et le système qui est, moi je trouve, très très bien fait, qui est très carré. Alors du coup, je tarie pas d'éloge sur gameplay, vous allez me dire, est-ce que le jeu, il est parfait? Alors pas vraiment, il y a deux points noirs, et dont un que j'ai rapidement évoqué, même le second, c'est la direction artistique et le scénario. L'ADA, elle fait très PS360, très Killzone, ocre, marron, rouille. Ouais. Tu t'en souviens de cette période?
Ça manque un peu de couleur.
Ça manque un peu de couleur, la direction, je la trouve pas si fofolle que ça. La direction artistique, le design des monstres chelous, je suis pas fan, je trouve que ça fait, c'est un jeu que je vous ai parlé il y a pas longtemps, c'est Ninja Blade. Rappelez-vous de Ninja Blade. Des monstres un petit peu chelous, un peu crado, je suis pas fan.
Je suis pas fan non plus, mais je trouve qu'ils ont une originalité.
C'est vrai.
C'est pas les monstres qu'on a vu 50 fois, comme on disait dans Alone in the Dark.
Et surtout, les monstres alpha, pour le coup, il y en a certains qui sont vraiment très réussis. Après, bon, le chara-design des personnages féminins, il est ce qu'il est, mais les personnages humanoïdes sont plutôt réussis. On est dans du quelque chose qui ressemble au manga Gantz. Je sais pas si vous... Donc Gantz aussi, hein, t'as deux,
qui
trois...
qui n'était pas très subtil non plus.
Au niveau des nanas, on est... Mais je trouve que l'affiliation, elle est pas trop mal. Après, on va parler du scénario. Alors, ça reste un jeu d'action. Je veux pas lui tomber dessus en mode « tu m'as pas filé quatre niveaux de lecture et tout », mais on est sur quelque chose qui est très convenu, pas subtil, mais surtout le truc c'est que il en fait rien de ça. Ouais. C'est que le jeu, toutes ces références à la Bible et tout, ça sert à rien en fait. C'est vraiment cousu de fil blanc. Et la référence à Nier, ça joue en sa défaveur parce que Nier avait pour lui un scénario qui était pas folichon, mais qui prenait pour lui l'interaction, le gameplay, et il y avait des twists. Et Taro Yoko était brillant et a fait des grands moments de jeux vidéo, non pas avec un grand scénario, mais avec une grande maîtrise du gameplay. Et ça, en fait, il y a dans Stellar Blade, il y a pas de twist, il y a pas de grand moment, il y a pas de révélation où tu dis ah ouais, tu m'as emmené là, tu m'as manipulé et tout. Il y a pas de ça. Ça manque d'une histoire, ça manque d'une DA, ça manque un petit peu de personnalité. Je veux dire, c'est un petit peu dommage, hein, le rip-off, il est là sur Nier Automata. Après, en parlant de direction artistique, dans la DA, y a aussi la musique. Et là, on est sur quelque chose qui est très bon, mais aussi dans quelque chose de très attendu. Hein. Pour revenir sur notre fil rouge, hein, 60%, pour vous donner un ratio, il y a 60% de la musique qui a été composé en interne chez Shift Up, donc c'est pas mal quand même. Il y a 40% qui a été composé chez Monaka. Oh. Et Monaka, c'est le studio de Keishi Okabe qui a composé les musiques de Nier Automata.
Sapristi. Quoi, silence.
Donc on est quand même sur une grosse prod au global. On est sur plus de 100 morceaux, hein, et beaucoup des morceaux chantés sont, je pense, celles de Monaka. Et donc là, les musiques au global, moi je les trouve vraiment sublimes. Je les trouve super. Elles sont hyper bien produites. Ça sonne pas cheap. Ça envoie de ouf, mais franchement, c'est too much. L'affiliation avec Nier, enfin, je trouve que c'est bon. On avait compris bien avant.
Parce que tu viens chercher les mêmes mecs pour leur demander d'appliquer les mêmes effets à mêmes circonstances. Enfin, c'est la flemme.
C'est un peu la flemme et je trouve que c'est un peu too much. Tu vois, ça, on a compris.
Ils s'en cachent pas.
On s'en cache pas. Ils s'en cachent pas. Après, je vous tanne depuis quelques émissions avec ça, avec la surprésence de la musique et la surprésence de tout, en fait, qui vont solliciter un petit peu notre attention. Et là, en fait, c'est plus marqué que jamais, hein, avec des thèmes qui sont chantés tout le temps. C'est-à-dire que t'es dans la ville centrale, le hub, ça chante. T'es dans les lieux de repos. On parlait de Souls-like, t'as des sortes de feux de camp, ça chante.
Ouais, ça m'a fait tiquer aussi. Et surtout dans un truc post-apo, des fois, t'as envie de, un peu, voilà, t'imprégner de l'ambiance du truc. Et non, t'as toujours de la musique et tu peux même changer la musique à tes repos. T'as l'impression d'avoir Skyrock à côté. Là.
Mais vraiment, après, la musique en elle-même est vraiment très très qualitative. Mais ouah, c'est que t'es jamais tranquille. Et au contrario à Red Dead, Dark Souls ou Death Stranding, où la force des morceaux chantés venait aussi de leur rareté. Là, ça chante tout le temps. Du coup, tu le remarques plus. Donc au global, je trouve que Stellar Blade a une direction musicale qui est maladroite, mais une OST de qualité. Ça, faut quand même pas le négliger, je pense. Après, en conclusion, j'ai commencé à vous parler de l'attente. J'ai commencé par ça tout à l'heure, mais je vous ai pas dit ce que moi j'attendais du jeu. Et perso, j'étais absolument sans attente pour Stellar Blade. J'avais zéro attente, rien, voire OSEF. Hein, les trailers ne m'ont pas du tout donné envie, même pas la démo. Et avec condescendance et dédain, je pense que j'ai dû lâcher pendant le trailer encore un rip-off de Nier. Après, ce que je me suis gouré, non, j'étais pas trop loin, je pense. Aussi. Et c'est important de le préciser, hein, ça c'est perso, j'étais complètement dans une déprime post-Rebirth, un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais qui a, pour le coup, trahi mes attentes. Parce que FF7 Rebirth, c'est un jeu pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. Et du coup, pour parer à cette mini-déprime, j'avais besoin d'un jeu pour lequel j'avais, justement, aucune attente. Et cette absence de pression, en fait, qui était apposée sur le jeu, une pression le plus souvent qui est constituée de nos attentes, ça m'a fait apprécier Stellar Blade. Alors, je dis pas que j'ai inconsciemment surévalué le jeu, je pense pas. Mais au contraire, je pense que cette absence d'attente m'a fait l'apprécier pour ce qu'il était, et non pour ce que je voulais qu'il soit. Et au final, j'ai beaucoup aimé Stellar Blade. Il lui manque pas grand-chose pour être un très très bon jeu. Mais impossible, et ça c'est très important pour moi, de pas lui reconnaître une grande maîtrise formelle. Le jeu, il est bien fait, bien pensé, beau, sans bug, bien optimisé. Les sensations, elles sont super bonnes, le rythme est excellent, il est long, riche, varié. Non, franchement, le jeu, il est ultra propre. Il est peut-être un peu trop propre. Après, comment lui en vouloir, hein? C'est le premier jeu console du studio, c'est le premier jeu du genre pour Shift Up, et de ce qu'on voit, hein, ce qu'on constate des studios coréens, bah, il semblerait qu'ils soient dans une phase d'observation du marché, parce que les jeux mobiles, toute proportion gardée sur les MMORPG, bah, ils connaissent, ils sont même leaders. Mais les jeux solo, les jeux console, bah, c'est nouveau. Donc j'ai quand même l'impression qu'il aborde avec humilité. Alors sans éclair de génie, hein, en copiant trop Nier Automata, mais non sans ambition. Faire un jeu de cette trempe aussi carré, je pourrais pas dire que c'est pas sans ambition, tu vois. Ils ont copié certes, mais...
Ouais, bah, c'est le syndrome du premier de la classe, quoi, qui fait un travail propre, carré, appliqué, mais où il manque peut-être un peu un petit quelque chose, une petite identité, mais faire ça pour un premier, une première étape, on va dire, enfin, c'est quand même, tu pars avec une base qui est gigantesque. Et je trouve encore une fois Sony très malin d'avoir mis le crochet là-dessus, sur ce genre de studio-là, parce que eux, leur deuxième jeu, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'autre, quoi.
Ça va être la folie. Et au global, les studios coréens, je trouve qu'ils ont l'air d'apprendre vite, ils ont l'air d'apprendre bien. Donc, si comme moi, vous n'aviez aucune attente pour Stellar Blade, bah, je vous conseille de lui laisser une chance. Et si comme moi, vous n'aviez aucune attente pour les jeux coréens, bah, il faudrait que collectivement, je pense, on réévalue nos attentes sur ces gens-là parce que ils sont vraiment de grande qualité.
Ouais, faut pas qu'on fasse les snobs, quoi.
Non,
il y a une nouvelle génération de développeurs qui arrivent de Corée, de Chine, on l'a dit, avec des jeux. Enfin, Black Myth Wukong aussi, qui a l'air ultra ambitieux, et on parlait de générosité. Le jeu, à chaque fois, il montre des gameplays qui ont l'air complètement différents, enfin, d'avoir d'une richesse incroyable. Alors, peut-être, ce sera nul. Et c'était un peu le syndrome aussi du Bloodborne-like,
Lies of P,
qui était la copie appliquée, qui fonctionne très bien, mais il manquait peut-être le petit touche pour se distinguer, mais...
Ne soyons pas trop durs, c'est vrai que, tu vois, ces studios coréens qui étaient versés dans un autre marché, hein, le marché MMO et le marché mobile, et qui investissent petit à petit les jeux consoles, tu vois, ils arrivent, et tu vois, on leur dit « Ah, mais vous avez pas révolutionné le game ». Ouais, 2 secondes, tu vois, c'est que laissons un petit peu faire les choses. C'est vrai que là, ils s'inspirent beaucoup des Souls-like, mais voilà, ils vont commencer à toucher d'autres genres, et vu l'application et la qualité qu'il y a sur Stellar Blade et sur les autres jeux coréens qui sont arrivés et qui vont arriver prochainement, ouais, je pense qu'ils peuvent un petit peu rebattre les cartes de, ben voilà, toujours pareil, l'Occident avec le bloc Europe, États-Unis et le pauvre Japon. Voilà, la Chine, la Corée, ils arrivent en force. Et je pense que ce n'est que bénéfique d'avoir d'autres studios massifs comme ça qui vont faire des gros jeux, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'au Japon, on sentait qu'il y avait des inquiétudes aussi, où ben, certains développeurs un peu anciens, ben, justement, étaient débauchés par les écoles en Chine et en Corée pour donner les ficelles et apprendre à faire du jeu vidéo, ce qui semble fonctionner, quoi. Et au final, ben, le Japon commence un peu à perdre son soft power là-dessus. Enfin,
ouais.
Tu parlais de Genshin Impact, c'est la Chine qui a battu le Japon sur son terrain du jeu gacha, oui. Machin, mobile. Faut que les mecs soient vigilants. Quoi.
Oui. Et puis rappelons-nous que vraiment au tout début, hein, le Japon ne faisait aussi que copier les jeux occidentaux et ils ont mis du temps un petit peu à porter leur touche. Ils ont au début, ben voilà, copié avec maestria de façon très propre et très carrée. Et petit à petit, ils y ont apporté leur. Ils sont pas arrivés, tu vois, le marché japonais n'est pas arrivé, tu vois, tout seul.
Oui, bah Dragon Quest, Final Fantasy, on sait qu'ils ont eu des inspirations plutôt assez fortes. Alors ils ont su les mêler peut-être aussi de manière un peu plus. Subtil, justement.
Oui.
Mais oui, effectivement, ouais. Il y a du progrès à attendre.
Voilà, pour Stellar Blade. Voilà, il sort demain. Non, il sort aujourd'hui pour vous. Qui nous écoutez.
Évidemment.
C'est pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si le jeu vous intéresse, si vous l'attendiez fortement et après coup, si vous a plu ou s'il ne vous a pas plu. Du tout, on va faire une petite pause et rien à voir avec Stellar Blade. Néanmoins, sa musique, Stellar Blade, était pas mal. C'est un top 3 qui, sous ton impulsion, est un top 3 des compositeurs. Et si je dis pas de bêtises, petite big up à Darkaos. Je crois qu'il avait proposé aussi sur le Discord. Beaucoup de propositions sur le Discord.
Merci à vous.
Pour ces top 3.
Ouais, alors c'est un top 3 qui pourrait être big deal en mode, t'as trois top 3 des compositeurs, c'est un truc, voilà. Mais non, justement, prenons-le à la légère, tranquillou, en mode top 3.
Je l'ai trouvé très dur.
C'est très dur, mais
j'ai trouvé très 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 chaud.
Moi, c'était plus voilà pour associer des petits souvenirs de ma vie de joueur.
Ouais, et du coup, une sale réputation se fait traîne, comme quoi on triche et je triche. Donc là, au moins, je vais donner raison et ça va être sale. Vous allez voir.
Excuse quoi, moi que je vais tricher, ben je vais tricher. Vous allez voir.
Exactement, c'est ça qu'on veut. Allez, je te laisse commencer avec ton top 3.
Je triche vite fait pour mon top 3, vite fait.
Ça se moque.
Ah, et en fait, j'associe deux personnes, mais qui pour moi sont indissociables. Donc c'est David Wise et Grant Kirkhope.
Ouais. Okay.
En gros, c'est les mecs. Voilà, les compositeurs des jeux rares de la grande période, hein, donc Super Nintendo, Nintendo 64. Je serais incapable de les différencier, même. Enfin, c'est ceux qui ont apporté les musiques à Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, tout ça. Alors, c'est pas forcément ce que je m'écouterais le plus hors jeu pour me faire kiffer, mais pour moi, c'est indissociable de ma jeunesse de jeux vidéo, en fait. Hein. Je voulais pas citer Koji Kondo parce que voilà, c'est un petit peu à l'évidence, quoi, le mec.
Ça triche un peu.
Mais voilà, les deux compositeurs stars de la, du rare de la grande époque, ben, pour moi, c'est un peu ma jeunesse, quoi.
Ouais, moi, je te suis là-dessus, je kiffe aussi. Mais bon, moi, je vous l'ai dit, je vais tricher. J'ai fait un top 3. C'est trop dur de faire, tu sais, les grands noms de la composition et l'intro.
Je sens le scandale arriver.
Non, je vous fais le top 3 des, la nouvelle vague. Tu vois, un peu les, okay. les ceux qui vont. Il y a moyen que je vous lâche un petit top 3 des légendes. Même si le top 3 des légendes, c'est pas évident. Donc, en top 3 de cette nouvelle vague, moi, c'est Gareth Cocker. Donc, je vous en parle assez souvent. Hein, monsieur bande-son de Ori. Mais qui, depuis, est un peu le protégé de Ubisoft. Avec Immortal Phoenix Rising, avec Mario Lapin Crétin 2.
Et de Gotti.
Avec The Lost Crown. Ouais, tu vois. Mais, ouais, je trouve qu'il fait petit à petit son trou, il commence à avoir sa patte, et en termes de nouvelle vague, je trouve qu'il est très très, il est à surveiller, enfin, il est déjà à surveiller, rien du tout, il est déjà en place, et petit coup de cœur pour Gareth Cocker.
Ton top 2. Gareth coup de cœur.
Gareth, pouh, je te le piquerai, ça.
Alors moi, je suis moins dans la nouvelle vague, hein, parce que je suis moins à l'affût de ce qui se passe en termes de musique, donc j'ai fait un peu des valeurs sûres.
Oui, yes,
donc on revient sur encore mon histoire de joueur, là, on passe plus à l'adolescence, ça sera à Michiru Yamane. Ben parce que Castlevania, à part, donc elle a commencé à bosser sur Castlevania à partir de Bloodlines, le Mega Drive, je crois. Ben c'est là aussi où, première fois, tu commences à dire, elles sont cool les musiques, c'est cool. Alors c'était dans ce style complètement inimitable, mi-chant d'église, mi-rock'n'roll, hardcore, machin. Et voilà, elle a accompagné mes parties sur plein de Castlevania, genre de jeu qu'on kiffait particulièrement à l'époque, et qui venait recréer ce fameux triumvirat avec game designer, artiste, caractère designer et musicien qu'on retrouve dans plein de jeux.
Kojima Igarashi.
Et voilà, et donc pour Yamane, pour Castlevania, même si, je vous encourage à ne pas aller sur son Facebook, apparemment elle serait dans des bails un peu sombres, en mode Trumpiste convaincu, donc ça je préfère voilà, jeter un voile pudique là-dessus et pas trop me chercher à me renseigner.
Après parfois moi c'est ce que je dis toujours, hein, c'est qu'il faut pas rencontrer ou il faut pas connaître forcément ses idoles parce que des fois on parlait tout à l'heure d'attente, là on est souvent déçu en tout cas. Parce que
c'est le mec de Tomb Raider aussi apparemment, le
je sais pas, si oui c'est lui,
qui est dans des bails conspi un peu chelou.
En tout cas, mon top 2, il est pas dans des bails conspi. En tout cas, j'espère pas. C'est, alors, t'étais Gareth coup de cœur. On va parler de Olivier de Rivière. Olivier de Rivière, donc voilà, l'une des plus grandes stars de la composition française et bien plus. Donc, il s'est fait connaître depuis un moment, mais là, qui a fait éclat avec les dernières compositions de Plectel et Dying Light 2, que je vous conseille vraiment chaudement. Quelqu'un qui est voilà très proche de la composition interactive, qui a toujours une recherche très conceptuelle. Moi, j'aime beaucoup cette façon de composer, mais qui, en termes de mélodie, se défend bien. Donc, il n'est pas que dans le concept. Voilà, moi, je l'aime beaucoup, je l'adore. Et,
Quand on pense compositeur français aujourd'hui, c'est lui qui vient en premier, quoi. Il n'y a pas de débat, quoi.
Voilà. Après, j'aime beaucoup sa musique. Il a un caractère bien trempé. Donc, voilà, écoutez sa musique. Si vous le trouvez trop véhément, sa musique, en tout cas, ne l'est pas et elle est très, très recherchée.
Il prêche pour sa paroisse, il a une vision et il la pousse au fond. C'est beau.
C'est beau. Allez, top 1.
Top 1. Alors là, je disais, j'évite Koji Kondo, mais comment ne pas citer Nobuo Uematsu? Voilà. Alors, je vous ai fait le top tarte à la crème, évidemment. Mais Uematsu, voilà, c'est au-delà du fait qu'il a l'air ultra sympathique.
Il a l'air.
Pensé avec mon top 2. En fait, le mec, c'est juste, ouais, le roi de la mélodie, quoi. C'est combien de mélodies il a faites, avec, sans avoir l'air d'y toucher, cette espèce de simplicité apparente, mais, voilà, c'est le mec qui est pas là en train de flexer avec 75 violons dans son dos. Non, c'est la mélodie, la puissance de la mélodie et combien on peut siffloter des thèmes qu'il a fait pour Final Fantasy comme ça. Sachant qu'en plus, voilà, c'était l'occasion de le citer parce qu'avec Rebirth, il revenait pour la chanson, enfin le thème du jeu, comme il avait fait pour Remake. Et on sait que voilà, sa carrière est grosso modo derrière lui. Hein. Il a d'ailleurs dit lui-même qu'il ne pourrait plus s'occuper d'une bande originale tout seul.
C'est Fantasian, sa dernière,
ouais,
qui est excellente.
Mais voilà, c'est quand même... enfin. Comment ne pas rendre hommage à Uematsu en le mettant numéro 1, quoi.
Carrément, ouais, carrément, je te suis. Et mon top 1, toujours de nouvelle vague, je trouve, et là, blasphème pour pas mal de monde, mais c'est la vie. Pour moi, l'héritier de Uematsu, en tout cas, en devenir, c'est Nichiki, donc je l'adore de ouf. C'est Monsieur Octopath Traveler 1 et 2.
Je veux dire, le compositeur de FF17.
J'espère, vraiment, ça serait trop bien. Donc il fait des interventions, par exemple sur Remake, Rebirth, il fait partie de ce panel de stars qui a pu faire partie de l'équipe de composition et d'arrangement, mais Nichiki, c'est, je trouve, la relève de, tu l'as dit, la mélodie. Il fait des trucs de malade, pareil, qui rentrent dans la tête, qui sont complètement ouf. Moi, c'est vraiment mon chouchou, et j'espère plus que tout, tu l'as dit, qu'il soit un jour à la main d'un Final Fantasy. En tout cas, voilà, sur les Octopaths, il a fait un travail exceptionnel, et je vous conseille de l'écouter même hors jeu. Ça passe de ouf.
Je pensais que Tu citerais le mec de Penis Big Breakaway.
Alors attends.
Ah, ça y est, on arrive on arrive dans les embrouilles.
Parce que là c'est, j'ai une mention de mon top 3 nouvelle vague. Okay, donc, c'est T. Lopez.
Voilà, voilà, donc monsieur top 3 et des mentions. Okay.
Donc ouais, il s'est occupé de Sonic depuis Sonic Mania, il a même fait une Sonic Dream, le jeu sur Apple Arcade que je vous conseille, la bande son elle est très bien, mais Shredder's Revenge, le prochain Metal Slug Tactics, c'est T. Lopez, il est trop bien, il est trop fort. Donc ça c'est ma mention, mais le top 3 des légendes, non franchement c'était trop dur ce top, mais en légende, et regarde ça, rien que ce top 3,
vas-y.
Shimomura, Mitsuda, Uematsu en numéro 1, et j'en ai zappé, Sakimoto et tout, mais voilà, si je devais faire le top 3 des légendes, ça serait ça, Shimomura, Mitsuda et Uematsu, et je te rejoins sur le top 1.
Oui, bah écoute, de toute façon, c'était le but du top 3, d'être un peu, voilà, enfin un petit peu...
Mais est-ce que j'ai une mention du top 3 des légendes?
Je sais pas.
Si j'en ai, c'est Akira Yamaoka, et savez-vous qui a composé le générique des podcasts de Sœur, donc l'ensemble des génériques, que ce soit Red Alert, Sœur d'émission, tous, c'est Akira Yamaoka lui-même qui nous a
pris.
Donc on le répète, mais parce qu'il faut le savoir, et ça nous fait chaud au cœur et plaisir que ça soit quand même Akira Yamaoka qui nous ait fait le
ouais, ce générique. Hormis les podcasts Centimes, où c'est Hiroki Kikuta, donc
exactement.
Monsieur Secret of Mana, donc franchement, excusez du peu, quoi.
Donc pas pire, écoute, merci pour ce top 3, Nico, très bonne impulsion, ça faisait plaisir, mais c'était pas facile,
c'est vrai, et le prochain top 3 sera très bien aussi.
Oui, c'est vrai, parce qu'on le connaît déjà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées de top 3, et à vous, allez balancer votre top 3 des compositeurs, il y a de quoi faire, ouais, et ça va être
ça
cool.
Ça va tricher aussi, je pense
que ça va tricher, mais ne trichez pas, soyez pas ces gens-là. Allez, c'est à toi, seconde chronique, tu vas nous parler d'une chronique au nom évocateur et non moins intrigante, qui est
Une génération perdue,
pour génération perdue.
Alors, génération, une chronique fait le nez bouché, donc je m'excuse par avance. Hein. Alors oui, je l'ai dit, on fait régulièrement ce point sur l'évolution du marché de la next-gen. La next-gen, on l'appelle current-gen maintenant, même si c'est moins sexy. Donc c'est les machines les plus puissantes, on va dire, du moment, quoi. Parce que mine de rien, ces PS5 et Xbox Series, elles vont sur leurs 4 ans, gentiment sur leurs 4 ans quand même, putain, ça passe super vite. Hein,
ça va trop vite.
On a fait un dernier point il y a un an dans le Red Alert 105, où c'était... plutôt positif, hein, le bilan, on allait dire, et on sortait de la fin de la pénurie, la PS5 commençait à vraiment pouvoir se vendre à son rythme un petit peu de croisière, on va dire, et on répétait qu'il fallait être prudent, parce que les débuts des nouvelles générations des consoles, c'était à chaque fois un petit peu morne, et qu'on avait tendance à l'oublier, et qu'à chaque nouvelle génération, on se dit « Ah, les débuts sont pas ouf, mais c'est un petit peu un process habituel ». Sauf que là, un an après cette chronique, hein, j'ai l'impression que cette gen, elle a toujours pas vraiment démarré, en fait. Et si bien qu'on peut voir se profiler... Le spectre est d'une génération perdue pour les consoles. Là, c'est du Charles Dickens, un petit peu. Donc, on va voir ensemble si c'est exagéré ou pas, hein. Pourquoi pas? On va en discuter. Mais, je trouve quand même qu'on est au-delà du retard à l'allumage pour cette gen. Donc, de quoi je parle quand je parle de génération perdue? Parce que, visiblement, les constructeurs, comme sont Sony et Microsoft, ils se portent plutôt bien, en fait, hein. C'est-à-dire que, année après année, même, ils enchaînent leur record quasiment en chiffre d'affaires généré.
Oui.
Donc, ça va. Il y a de la thune qui rentre, hein. Je suis pas en train de dire que les deux vont couler. Je parle ici vraiment plus du point de vu consommateur, en fait. Le mec qui, comme nous, il a lâché 500 balles, voire plus, pour acheter sa console, et il se dit, est-ce que j'ai eu un retour sur investissement, tu vois.
Oui.
Et donc, évidemment, quand on parle de ça, le nerf de la guerre, le premier point qu'on regarde, c'est les jeux.
Mm-hmm.
Et donc, on a quand même, je pense, tous les deux, passé beaucoup de temps sur nos nouvelles machines, c'est indiscutable, mais qu'en est-il des exclus? C'est-à-dire des jeux qui ne pourraient pas fonctionner ailleurs que sur ces machines. Alors, est-ce qu'on est capable de les citer? Ouais, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc là, je parle vraiment de jeux qui sont sortis exclusivement sur PS5, Xbox Series, et pas sur Xbox One et PS4, parce qu'on va voir après avec le PC et tout, ça
voilà,
crée
okay.
Un petit peu des nuances. Donc, sur PS5, en termes de first party, et là j'évite de parler des remasters, on a eu Destruction All-Star, qui était là au lancement au tout début, le Demon's Souls, Returnal, Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Helldivers 2, et le remake de Last of Us Part 1.
Okay.
Sur Xbox Series, on a du Redfall, du Starfield et du Forza Motorsport. Donc, on est sur 10 exclus, 10 jeux.
C'est chaud.
10 jeux en 3 ans et demi, dont 7 de ces 10 jeux sont déjà sortis sur PC.
Okay.
Et dont 2, Demon's Souls, va sortir cette année et Spider-Man 2 sortira à coup sûr. Donc, voilà. Le seul qui est exclusif console, ça serait Destruction All-Star, qui est évidemment le meilleur du groupe.
Qui est le meilleur.
On s'en souvient tous. Donc voilà, 10 exclus en 3 ans et demi. C'est pas BZF, et surtout, est-ce que ces jeux-là, c'est vraiment des systèmes sellers qui justifient le passage à la caisse?
Il y en a un, oui.
Toi, tu as dit Returnal, oui, mais bon, chacun a son avis là-dessus. Alors, on en parlait tout à l'heure dans ta chronique, Sony a quand même été malin hein, d'aller miser aussi sur des exclus, mais seconde partie, donc
ouais.
Ils sont pas générés par les studios appartenant à Sony. Et là, la liste s'étoffe un petit peu, quand même, on a du Forspoken, on a Stellar Blade, Rise of the Ronin, FF16, FF7 Rebirth, en attendant Silent Hill 2 et MGS Delta, donc voilà, là-dessus,
oui.
Ils en ont fait un petit peu plus. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus bézef quand même pour l'instant. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et surtout, ben voilà, cette fameuse cross-gen, la cross-génération, donc les jeux à cheval sur plusieurs générations de machines, ben ça continue à exister. Donc je l'ai dit, les exclus dont on a parlé, elles arrivent maintenant systématiquement sur PC. Mais la cross-gen, ça reste toujours en vogue aujourd'hui, à l'heure actuelle, quoi.
Oui.
Dès le début de la gen, Xbox avait prévenu que ces jeux, bah, supporteraient à la fois l'ancien hardware et le nouveau pendant au moins 2 ans, ce qu'ils ont fait. Et il se trouve que Sony, bah, il a fait pareil au final avec Gran Turismo 7, Horizon 2 ou God of War Ragnarok qui sont sortis à cheval sur PS4 et PS5.
C'est vrai.
En soi, c'est pas un souci, parce que déjà, c'est cool pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de passer à la nouvelle gen, ils ont pu jouer à ces jeux. Mais c'est vrai, quand t'as investi dans ta nouvelle console, après 4 ans après la sortie, c'est toujours un petit peu frustrant, je trouve. Et rien que cette semaine, des jeux qui sortent cette semaine, là où on enregistre, ben on peut citer Eiyuden Chronicles, Top Spin, Sandland, ben ces jeux-là sortent aussi sur PS4 ou Xbox One, quoi, donc sur les anciennes consoles. Idem, cette semaine, on a eu l'annonce de la date de Metaphor et Fantasio,
oui, un
RPG de la team Persona que tu attends beaucoup,
oui,
et donc il sort pour octobre cette année, mais ça sera sur PS5, mais aussi sur PS4, donc toujours cette cross-gen-là. Alors on se rend compte quand même que sur les gros triple A, ben, ils ont plutôt, eux, basculé dans la nouvelle génération, mais pas tellement pour le reste de la prod. Tout ce qui est AA, tout ce qui est jeu indé et tout, on reste sur une démarche assez prudente et qui vient encore nous dire que bah, cette gen-là, elle n'a pas encore forcément pris son ampleur à 100%, quoi. Deuxième point, ce qu'on a un peu des nouvelles consoles, c'est les claques graphiques.
Oui.
Ça reste un détail, mais c'est quand même quelque chose dont il faut parler, quoi. Est-ce qu'on a pris une claque graphique next-gen récemment? Ben, pas tant que ça. Là, je pense à Alan Wake 2. Je pense peut-être
Alan Wake 2,
le plus impressionnant qu'on ait vu. Hellblade 2, qui, dans ses vidéos, a l'air vraiment de foutre une claque aussi. On verra, on jugera sur pièce. Au-delà, j'ai pas l'impression. Je sais pas.
Et si c'est pourtant deux jeux qui ont pas les plus gros budgets.
C'est
là,
vrai.
Sur Alan Wake, je crois qu'on parle de 40 millions, 70, je sais plus, je confonds, mais en tout cas, c'est moins de 100. Et c'est plutôt une direction artistique appuyée et une belle maîtrise technique qui font qu'on a pris une claque. Mais c'est plus une claque artistique, quoi. C'est vrai que la
c'est
claque graphique... Bon, God of War, même si t'es cross-gen, il avait quand même sur
c'était
PS5 qui était solide.
Mais c'est un jeu qui tournait sur PS4 quand même, donc tu te dis, bon, voilà, est-ce que, voilà, c'est pas la claque graphique qui fait que ça justifie l'achat de la PS5.
Après, laisse-moi forcer sur Returnal avec le côté manette, tu vois. C'est vrai qu'il avait, il exploitait, les spécificités de la PlayStation, et c'est l'un des rares jeux qu'il a fait aussi loin, qui va aussi loin.
En tout cas, j'ai l'impression que niveau technique, bah, tout le monde attend un petit peu après Unreal pour qu'Unreal 5 fasse tout le boulot, parce que il y a eu la mise à jour Unreal 5 et voilà, maintenant c'était mis à disposition des devs et on voit que les jeux qu'ils exploitent commencent à arriver maintenant. Et c'est vrai que voilà, on sait qu'il y a encore des éditeurs qui utilisent des moteurs propriétaires, mais pour le reste, bah, on a l'impression qu'ils attendent un petit peu après Unreal. Hein.
Ouais.
On voit par exemple que FF7 Rebirth est resté sur l'Unreal 4, le même qu'avait Remake,
oui,
et on voit que la différence graphique est pas gigantesque, alors que FF5 Rebirth est une exclue PS5. FF16 aussi, exclue PS5 PC, c'est pas non plus la claque qu'on s'imaginait peut-être. Bah, quoi qu'il en soit, voilà, ça manque peut-être encore un peu de claque, même si il faut reconnaître que bah, avec les générations de machines passant, ben, il y a de moins en moins d'écart gigantesque entre deux générations, quoi, de
c'est
hardware.
Vrai, c'est vrai.
Donc, on va maintenant un petit peu ouvrir le débat là-dessus, parce qu'on arrive en milieu de gen, grosso modo, on l'a dit, sur les 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, il est normal qu'on commence à entendre parler des consoles de mid-génération. C'est une tendance qui est née avec la génération précédente. Donc, Xbox, eux, ils ont dit qu'a priori, ils n'emprunteraient pas cette voie. On va voir s'ils vont rester sur cette décision. Mais, quoi qu'il en soit, on a beaucoup de rumeurs et d'indiscrétions du côté de chez Sony qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'on va avoir bien une PS5 Pro. Normalement, d'ici la fin de l'année, qui doit arriver. Le souci, c'est que l'éternelle promesse de la 4K 60 FPS qu'on nous vend depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'elle a pris un petit peu du plomb dans l'aile. Hein. On n'y croit plus tellement, en fait. Et je pense que sans rajouter le concours de l'IA, ce qui sera peut-être le cas dans le futur,
c'est
une promesse intenable sur les gros jeux, parce que les gros jeux veulent toujours être plus beaux et tout, donc
bien
forcément,
sûr,
tu pourras pas avoir ton 4K 60 FPS là-dessus, quoi. Et on a même Digital Foundry qui a fait une analyse des leaks des performances de la console, donc ça reste à prendre avec des pincettes parce que les leaks sont pas confirmés, mais qui en a fait une analyse assez tiède en fait, en disant que la PS5 Pro telle qu'on nous la montre, c'est pas un game changer, c'est pas une machine qui va révolutionner quoi que ce soit, ça sera comme on a eu pour la PS4 et la PS4 Pro. Donc t'auras ton petit logo et ta norme Enhance PS5 Pro, mais là c'est plus du marketing qu'autre chose, mais finalement t'auras les mêmes jeux qui tourneront sur les mêmes supports. L'un sera peut-être légèrement plus fluide que l'autre, avec des ombres un peu plus jolies, mais bon, voilà, rien qui justifie forcément un truc de ouf. Là où la PS4 Pro arrivait quand même avec deux arguments, je trouve, un petit peu plus palpables, c'était le côté 4K et HDR, qui étaient deux nouveautés pour le coup, et que ça, tu peux le constater, en fait, de manière assez concrète. Et ce qui, là, sera peut-être pas forcément le cas dans la PS5 Pro, elle aura peut-être pas ce petit gimmick
en plus
ouais, pour dire, ok, là, je vois concrètement le bienfait du truc. Quoi qu'il en soit, avec cette PS5 Pro, je me demande si Sony, ils sont pas en train de nous préparer une espèce de reboot. Je sais pas si tu te souviens de la génération PS3, oui. qui a été compliquée au lancement. La console très chère, oui, la console était massive. Il y avait cette fonte Spider-Man un petit peu dégueulasse. Et avec l'arrivée de la version Slim, PlayStation est arrivé avec un nouveau logo, plus oui. dans, comme on connaît habituellement.
Pas Spider-Man, du coup.
Les boîtes de jeux même ont été relookées avec ce nouveau logo-là. On a eu l'arrivée aussi de gros titres qui, à ce moment, avec une baisse de prix, ont permis à la console de décoller et de rattraper le retard qu'elle avait accumulé sur la 3.6. Et là, je me demande si Sony va pas nous faire le coup. Et je trouve que les circonstances, en tout cas, s'y prêteraient. On vient d'avoir un changement de président à la tête du groupe, donc changement de direction éditoriale. On a vu tous les atermoiements qu'il y a eu autour du jeu service, qui semble être un petit peu maintenant mis de côté. La console, la PS5, là, c'est un avis perso, je trouve qu'elle est moche, qu'elle est encombrante. Ça peut être l'occasion, voilà, de ce second souffle un petit peu. Et je me demande si Sony, d'ailleurs, le fait qu'il y ait aucun jeu first party qui soit annoncé ou sorti sur PS5 à ce jour, hors remake, remaster ou quoi, peut-être qu'ils se gardent aussi ces cartouches-là pour accompagner cette seconde vague, un petit peu vraiment faire comme un nouveau lancement.
C'est vrai.
Et qu'ils aient un peu mis ça de côté en attendant et pour pouvoir vraiment arriver avec quelque chose. Ok, c'est bon, on tire un trait sur le passé, on repart sur une nouvelle direction. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu peux imaginer, toi?
Ouais, je trouve ça intéressant et pas con. Là où la PS3 et la PS5, je trouve c'est un peu différent, c'est que la PS3, en fait, il y avait vraiment une réaction de Sony qui avait vendu la console sûrement trop chère, mal marketée, pas assez jolie, ça avait bidé. Là où la PS5, quand tu regardes les chiffres, les courbes sont bonnes, en fait. Ouais. C'est que même malgré les ruptures de stock, le Covid et tout, les courbes sont excellentes. Donc la réaction, elle est pas due aux mêmes raisons, en fait. C'est que ils sont en train de sûrement de rebrander le truc, de refaçonner la chose, mais peut-être pour donner une nouvelle dynamique à cette courbe qui semble peut-être, alors pas commencer à stagner, mais il y a toujours un plateau, quoi. Et que là, les grosses sociétés, les gros constructeurs, ils en veulent toujours plus. Il n'y a pas de raison que ça baisse. Et là où la PS3, il fallait en fait réparer quelque chose. Là, en fait, ils veulent pas baisser. Ils veulent
relancer
le truc, quoi.
On va en parler un petit peu après des chiffres là-dessus, mais je pense que t'as raison là-dessus. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je trouve que là aussi, dans une démarche où on a l'impression que la nouvelle génération n'a pas encore commencé, entendre des discussions sur une console mid-gen, là aussi, c'est un petit peu frustrant. Sachant que on a, là aussi, c'est un fait assez pas anodin, c'est que les constructeurs parlent déjà ouvertement de la suite. On a Xbox qui a déjà évoqué sa console next-gen, sa machine next-gen. Le plus gros saut technique vu entre deux générations, j'ai mis des guillemets là, c'est une déclaration de Sarah Bond, donc qui parle déjà de la prochaine génération en la vendant comme le plus gros bond technologique entre deux gènes, parce que voilà, on sait qu'Xbox, niveau vente, c'est hors USA, ça, ils sont un petit peu dans la panade.
Okay.
Sony aussi a déclaré que la console, sa PS5, était déjà dans la seconde moitié de sa vie. Alors, je citais la déclaration, c'est que la PS5 entrera dans la dernière phase de son cycle de vie. Donc c'est une décla qui a été faite lors d'une conférence téléphonique, the later stage of its life cycle en anglais. Donc là aussi, c'est vrai, il y a pas de débat là-dessus. Hein, donc, mais c'est étonnant, je trouve que tu vois d'employer des mots comme later, ça a une connotation un petit peu négative en fait.
C'est vrai.
Et là où on revient sur les chiffres, c'est que Sony, pour le coup, cette année n'a pas atteint ses objectifs annuels. Enfin, ne devrait pas les atteindre. On est la clôture en mars, on n'a pas encore eu les résultats.
Okay.
Donc ils avaient même abaissé leur attente de 25 millions à 21 millions de machines. Ça reste gigantesque. Hein.
Oui,
et encore une fois, Sony, ils vendent très très bien. Mais malgré les baisses de prix, ils ont dû revoir leurs objectifs à la baisse. Et en termes de dynamique globale, ils sont passés derrière la PS4 avec la PS5. Là où pour l'instant, elle se mettait vraiment au coude à coude.
Ouais.
Et où on se disait, c'est à cause de la pénurie, en fait, dès qu'il y aura des stocks, elle va la doubler. Finalement, non, il y a un tout petit recul. Et sachant qu'à partir de ce nouvel exercice, donc fiscal, qui commence ce mois d'avril, Sony anticipe une baisse des ventes de sa machine. C'est-à-dire que le pic a été atteint. Comme toutes les consoles, à partir de ta quatrième année, tu parlais d'un plateau, tu commences déjà à partir sur la phase descendante. Et pour le coup, ta vision, toi, de ce reboot, pourrait être justement pour repartir et lutter contre ce plateau, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, c'est tout simplement pas acceptable, ce plateau, pour les marchés, pour les investisseurs, pour tout, c'est que ça fonctionne pas. Là où, tu vois, sur PS3, c'était vraiment une réaction, là, c'est que... Et on peut corréler ça, et de façon très grossière, à toute la vague de licenciements qu'il y a eu, c'est que, en fait, ils dégrossissent, pas parce qu'ils ne vendent pas des jeux, il y a moins droit à l'erreur. Hein. Le marché est compliqué, il y a moins droit à l'erreur. Donc les jeux se vendent moins. Au global, il y a des têtes d'affiches qui se vendent beaucoup. Mais au global, le marché va bien. C'est juste que les jeux se vendent de façon similaire, mais la croissance est obligatoire. Et donc, du coup, comme la croissance est obligatoire, de leur point de vue, ils dégrossissent pour que les objectifs financiers, des objectifs comptables, hein, qui sont quelque part artificiels, hein, c'est juste, bah, tu jugules un petit peu. Le...
Oui, c'est né, ça naît de l'avidité, évidemment, des voilà. actionnaires derrière.
Et là, c'est pareil, en fait. C'est que, bah, la PS5, elle est sur une courbe de vente qui est correcte, qui est même très bonne, qu'est-ce que je dis? Et que, bah, là, atteindre ce plateau, bah, c'est pas acceptable.
Donc, c'est l'égation de marge. Voilà, on gagne beaucoup de thunes, mais on fait pas assez de rentabilité. Il faut augmenter la rentabilité. Ouais. Ça a été dit même par le nouveau président intermédiaire, qui, lui, est purement un côté compta. Hein. C'est pas un mec qui est là okay. pour te créer, c'est pas Satoru Iwata, quoi. Donc,
lui, il est là pour acheter du terrain, je
trouve. Ouais. Donc, ça, en tout cas, je trouve que quand tu commences à mentionner la suite, historiquement, de ta, la future de tes consoles et tout, c'est jamais un bon signe. Et ouais. Nintendo l'a prouvé. C'est-à-dire que, au bout de 3 ans, la Wii U, il parlait déjà de la NX. Donc, attendez, là, on s'est chié, mais vous allez voir la suite. Là où, 7 ans après la Switch, ils veulent pas parler de la Switch 2, tu vois. Donc, ouais. tu vois que, tu sais, quand tu commences à parler du futur, c'est que t'es pas forcément 100% satisfait de la situation actuelle, quoi.
C'est vrai.
Un petit mot sur le système des abonnements un petit peu à la Game Pass. Alors, quel est le rapport? C'est que, pour moi, c'est un petit peu une feature qu'on associe à cette nouvelle génération. Tu vois, un nouveau système économique né un peu de ces nouvelles consoles où on se dit, OK, maintenant, le futur du jeu vidéo, ça sera ça.
Complet, ouais.
Et là, on a eu la GDC, donc qui s'est tenue récemment. Et en fait, ce qui est apparu des discussions, c'est que globalement, les investissements étaient en baisse, que ce soit sur Game Pass ou même sur l'Epic Game Store, tu vois, qui voulaient acheter des exclus, tout ça. C'est un petit peu la fin d'un Eldorado, et Devolver a déclaré même qu'ils avaient décliné des offres, alors qu'ils sont familiers de ce genre d'abonnement, oui. d'avoir leur jeu dans tel ou tel abonnement, parce que les offres étaient devenues trop basses, et qu'ils disaient, vous sous-estimez la valeur de nos jeux, maintenant, c'est plus intéressant pour nous, quoi. Et les parts dans les revenus globaux, en fait, ben, en fait, tu te stabilises à des dépenses de contenu, enfin, en termes de dépenses de contenu sur le console et PC sur le marché américain.
Oui.
Ben, ça s'est stabilisé, en fait, cette okay. part d'abonnement, ça n'augmente pas, quoi.
Ok.
Et en France, les abonnements ont même baissé de 39% par rapport à 2022, en c'est 2023, selon le rapport du CEL. Donc, on voit que l'abonnement, c'était une nouveauté, quelque chose qui a démarré et on pouvait se questionner sur le devenir du truc. Et on voit qu'il n'y a pas de progression en fait linéaire, c'est que ça a augmenté, ça a pris une part de marché, mais cette part elle semble stagner en fait.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de progression incroyable. Et là, au niveau de l'industrie entière, même si on sort des Microsoft et Sony, on voit qu'Apple Arcade aussi est en difficulté.
Oui.
Et Apple se serait recentré autour des jeux un petit peu familiaux, un peu des valeurs sûres, et aurait drastiquement baissé ses investissements pour acheter ses exclusivités, quoi. Et ses abonnements, quels qu'ils soient, les prix augmentent aussi. Là, t'as EA Play qui a augmenté son abonnement, GTA Plus, l'abonnement pour GTA Online qui a augmenté aussi. Donc, on est en train de voir... Et c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais peut-être que le jeu vidéo est plus réticent à ce basculement vers un modèle d'abonnement que l'ont été, par exemple, le cinéma avec oui. Netflix et compagnie, ou la musique avec Spotify. Dans le jeu vidéo, il y a peut-être une résistance un peu plus importante.
C'est vrai. Je pense qu'il y a une saturation qui est globale de l'abonnement en règle générale, c'est-à-dire que ça soit jeu vidéo, musique, ou cinéma, série. Il y a tellement d'offres que maintenant, on est dans un phénomène de curation. Chacun, on va se dire, ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai pas besoin. Mais à la différence, et tu l'as évoqué, du cinéma et ses séries avec Netflix et consorts, c'est que dans le jeu vidéo, les systèmes d'abonnement n'ont pas atteint le grand public. C'est mon plus grand étonnement de cette génération, c'est qu'ils ont lancé quelque chose qui n'a pas abouti. Le grand public n'a absolument pas connaissance du Game Pass, encore moins du PlayStation Plus, mais pour le coup, c'est moins un enjeu pour Sony. Ouais. Là où Microsoft, je trouve que il y a une certaine incompréhension de ils poussent, je trouve, pas assez le Game Pass. Enfin, après, ils ont des difficultés, tu l'as évoqué, à maintenant recruter des nouveaux jeux. Ils ont baissé leur offre auprès des studios pour leur dire « venez dans notre portfolio ».
Tu pouvais pas faire ça éternellement parce que c'est des investissements qu'il fallait rentabiliser à un moment ou à un autre aussi. Et peut-être que eux pensaient que cette période où il fallait amorcer la pompe durerait moins longtemps. Et là, ils se disent « on peut plus trop continuer à acheter de la thune ».
Ouais. Et puis, rien que sur en France, là, t'as des chiffres qui baissent. Mais au global, on a les quelques rares déclarations de Microsoft où tu vois que l'augmentation des abonnés, elle est pas fracassante. Là où je pense, j'imagine qu'ils avaient quelque chose, une courbe peut-être plus exponentielle ou vraiment plus, ouais. plus fulgurante, quoi.
Après, encore une fois, c'est trop tôt pour attirer des conclusions. Peut-être que le marché va prendre plus de temps, mais qu'à un moment, on va passer un shift et ça va exploser. Mais pour l'instant, il semblerait que l'abonnement soit une voie de consommation qui stabilise, qui trouve sa place, mais qui ne devienne pas
la voie
principale. Donc, on verra ce que ça donne, quoi. Et justement, cette génération, il lui reste encore quand même 3-4 ans. On va pas l'enterrer tout de suite. Mais c'est vrai qu'on voit l'industrie, avec les licenciements en pagaille ou les financements qui sont gelés de part en part. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à moins de jeux dans le futur. Là, on voit que les licenciements d'aujourd'hui, c'était les jeux de dans 4 ans qui allaient être produits. Donc, sur la, enfin, je pense qu'on va avoir une espèce de ventre mou pour les 4-5 ans à venir et qui correspond justement à la fin de cette génération. Et donc, voilà, on peut dire que cette génération, peut-être qu'elle aurait été un petit peu maudite,
un peu triste.
Donc, j'espère que vous avez profité en 2023, parce que même en premier semestre 2024, parce qu'on a eu beaucoup de jeux, là, ça va être plus compliqué.
Ça va être d'autant plus vrai ce que tu dis que les fins de génération, en général, sont alors parfois pauvre en termes de nombre de jeux, mais exceptionnel en termes de qualité de jeu. Il y a très peu de jeux, mais avec des studios qui maîtrisent pleinement les machines, donc c'est des trucs de fou. Mais il y a peu de jeux. Et là, regardez la Switch. Enfin, on est sur la fin de la gêne, il se passe rien.
Ils sont en train de charbonner pour créer des jeux.
Ils sont en train
de
charbonner. Sauf qu'il y a 4 ans, il s'est pas passé ce qui se passe actuellement. Il y a 4 ans, justement, il y avait le Covid, donc il y a eu une espèce de stagnation, un ralentissement qui fait qu'il y a eu la seconde grosse vague de jeux Switch et sur l'ensemble des consoles. Là, actuellement, il y a la vague de licenciement, il y a cette génération, comme tu dis, perdue, qui vont donner, en tout cas pour Sony et Microsoft, une fin de gen, je pense, mais comme tu dis, ultra triste, quoi. Enfin, vraiment, ça va pas être la fête, quoi.
On verra, il faut pas, parce que je parle génération perdue, c'est vrai que c'est un grand mot, mais c'est, faut pas.
Sacrifier.
Faut pas en plus déconner. Parce qu'il y a quand même eu quelques progrès sur cette génération. Tu parlais des manettes, c'est vrai que les manettes sont plutôt cool, et notamment la DualSense avec toutes ces gâchettes et tout, ça apporte vraiment quelque chose.
Ouais, ouais, ouais.
Les temps de chargement, c'est quelque chose qu'on commence à perdre l'habitude, et c'est plus positif.
Ah non, mais là, genre, hors PS5 et Xbox Series, c'est foutu, quoi. Moi, je pense qu'il
y a Princess Peach pour nous rappeler.
Heureusement qu'il y a
le temps de chargement. Et puis, la fluidité au global, c'est vrai qu'on joue beaucoup plus en 60 FPS qu'on a pu le faire le passé. Donc, voilà. Mais, comme je l'ai dit, il faut plus non plus s'habituer à avoir des gouffres entre deux générations. C'est comme ça, mais c'est comme ça, la règle de l'évolution technologique. Et puis surtout, voilà, faut quand même pas négliger l'impact du Covid, t'en parlais. Personne n'aurait pu le prévoir et on en paye aussi les conséquences. Enfin, c'est normal aussi que le marché ait du mal à s'en relever derrière. Mais c'est vrai qu'en termes de joueurs, ben, on est exigeant de base, hein, parce qu'on a envie d'avoir des jeux sur nos premières machines. Surtout qu'il s'agit de la première gen où les prix ont augmenté au cours de la gen.
C'est vrai, c'est unique.
Qui va encore rajouter un petit taquet là-dessus. Mais bon, les sociétés, je l'ai dit, sont pas du tout en difficulté financière, que ce soit Sony, Nintendo, Microsoft. Ils ont tous du pognon. Donc voilà, faut pas non plus dresser un tableau super noir derrière.
En tout cas, tu n'as pas parlé du grand basculement du démat, mais ça mériterait une émission entière.
C'est un débat entier là-dessus, ouais.
Mais c'est vrai que ça cristallise aussi cette génération, un basculement, en tout cas pour nous, consoleux, hein, une certaine forme de transformation du marché. Et ça, ça intéresse, ça nous intéresse à tous, hein. Il y a des pros, des contres, tout ça. En tout cas, merci pour ce point et je te donne rendez-vous en mai 2025 pour,
peut-être de meilleures nouvelles, je ne sais pas.
Espérons. N'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez kiffé ce début de génération, est-ce que vous êtes équipé, parce que vous avez les 3 consoles, est-ce que vous êtes satisfait de ce début, de génération, est-ce que, ça a un retard à l'allumage ou pas?
Ouais, est-ce que, tu sais, on a tous un jeu ou deux qu'on associe à une gêne en particulier, tu vois, un grand jeu qui symbolise telle époque, est-ce que pour cette gêne-là, vous avez ce jeu qui symbolise, ah, ça, c'est la PS5 et la Xbox Series.
Oui.
C'est cool, ça.
Il y en a un.
Tu l'as trouvé, toi.
Ouais, carrément. Dites-nous si vous l'avez trouvé. En tout cas, on s'adresse à vous pour vous remercier très, très chaudement, parce que, il y a 15 jours sans raid alert, mais, vous continuez à nous envoyer des messages. Sur le Discord, il y a beaucoup d'activités sur les dernières émissions.
Et du débat.
Hors raid alert, notamment, le Third Strike EX sur Final Fantasy VII Rebirth, qui a beaucoup fait parler. N'hésitez pas à aller sur le Discord, n'hésitez pas, et ça nous aide beaucoup, à mettre, des notes sur Apple Podcast, sur Spotify, on est trop bien, je crois, un nombre
5 étoiles.
5 étoiles, donc ne faites pas baisser, soyez cool, s'il vous plaît. Mais voilà, et le petit like sur YouTube, faites monter tout le monde de la chaîne.
C'est gratuit,
cousin. Allez, merci encore, et l'occasion aussi de faire la bise à toute l'équipe, à Ludo, à Damien et à Ken. Et je me tourne vers toi pour te demander pas ce qui se passe l'année prochaine, mais chez Sword, on l'a dit, il y a quand même l'après-co Elden Ring, il y a des bouquins, on a parlé très rapidement de Final Fantasy XII et Vagrant Story, et ça, c'est pour vous, dès la semaine prochaine ou dans 15 jours.
En exclu pour ceux qui nous regardent en vidéo.
Voilà, si vous regardez, vous avez derrière nous les bouquins, donc on fait des podcasts, on fait des livres.
On fait des livres, c'est ce qui nous fait manger avant tout. Donc si vous voulez soutenir les podcasts, ça peut être cool d'acheter des livres en fait. C'est un peu le raisonnement qui est idoine,
j'espère. La semaine prochaine dans Raid Alert, il y aura un Raid Alert, même si pour nous, on doit tout vous dire, avec le mois de mai, bouscule un peu les plannings, avec les ponts, tout ça. Donc nous, on va enregistrer en début de semaine.
Il arrive très vite.
Avec des chronicos des beautés, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux nous faire?
Alors, sous couvert que je sois sauvé par une actu gigantesque qui arrive d'ici là, on va peut-être parler de jeux indés un petit peu étonnants qui sont sortis ces derniers temps.
Des jeux étonnants
que je ne préfère ne pas nommer parce que je ne sais pas encore forcément lesquels.
Donc revenez la semaine prochaine pour des jeux étonnants et Pour ma part, ça sera un DLC pas étonnant, mais celui de Final Fantasy XVI.
Tu viens boucler ta boucle.
Ouais, ça boucle la boucle. On a quand même pas mal parlé de FF et notamment de FF16. Hein, donc voilà, et je pense qu'il est temps de refermer cette parenthèse et ça sera dès la semaine prochaine. Merci Nico.
Merci Mehdi.
Merci à tous et à la semaine prochaine.
Merci à vous. Bye bye.